Michel, après cette pause, écho de campagne et de 8, voilà ton sommaire, oui. Ton titre
partie,
et ton
oui.
contre-regard de maintenant.
Et de 8, et de 8, 8 listes. Alors, 8, 8 listes aujourd'hui programmées pour ce premier tour des municipales. Je dis programmées, je n'ai pas dit officiellement constaté par l'État. Donc ça sera fait le 15 février, quoi, hein, pas avant. Hein. Donc, et de 8. Et de 8, et de qui de nommer Perello, enfin Perello, oui. Perello,
Monsieur Perello,
un monsieur en fait que je ne connais pas, qui sort du nez en politique, en fait pour moi en tout cas, hein, même s'il a fait quelques campagnes, en fait
oui, présenté une fois ou deux.
Oui, il a fait des scores magnifiques, hein, 0,2, oui, bon, je sais pas combien, peu importe quoi. Hein,
bon. Ça lui a plu.
Oui, ça lui a plu. Il s'intéresse à la politique. Alors, et son programme est particulièrement intéressant quand même, hein, puisque il est défini comme le plus gros de tous les temps, historique, hein, de Narbonne, c'est-à-dire que depuis l'ancien Narbonne, il n'y a jamais eu de programme municipal, en fait, présenté par un candidat qui fut aussi gros, en fait, aussi massif. Et pour cause, bon, en tête de gondole de son programme, il présente quoi, Jean-Claude? Une faculté de médecine sur Narbonne.
Ah oui, oui.
Mais que ça, oui. Comme à Montpellier.
Oui,
comme à Nîmes.
Oui, ce monsieur, à l'évidence. Alors une concurrente de
Montpellier. Oui, ce monsieur ignorant. À l'évidence, déjà, en fait, que pour avoir une faculté de médecine, il faut avoir un CHU, hein, c'est-à-dire un centre U, hein, centre hospitalier
universitaire.
Hein. Nous avons un CH.
Certes, on a un hôpital, c'est vrai, mais on ne peut pas dire, jusqu'à preuve de, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, quoi, hein, qu'il ait la dimension, effectivement, du CHU de Montpellier, voire de l'annexe, parce que bon, il n'est pas très important quand même, de celui de Nîmes. Donc voilà, première complètement fou, quoi, fou. Deuxième élément de son programme, alors qu'il est encore plus dingue, hein, si je puis utiliser des vocabulaires un peu légers, quoi. Création de 10 000 emplois nets sur un mandat.
Sur 6 ans.
Sur 6 ans. C'est-à-dire, en fait, une performance économique que cette région, en fait, je parle de la région, hein, parle pas de Narbonne, n'a pas connue depuis deux siècles.
Oui, alors là, ça serait inouï, véritablement.
Il n'y aurait plus de chômage.
Une espèce il n'y aurait pas assez de place pour les accueillir. En fait, mais où
Il n'y aurait plus de chômage.
On ne sait pas. En fait, hein. 10 000 emplois. Mais ce n'est pas fini. Hein. Non, mais la sécurité, c'est la police municipale. Il n'y a pas de sécurité à Narbonne. Donc, police municipale, les 3-8. Les 3-8, maintenant, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il faut multiplier au moins par 3 ou par 4 l'effectif.
Oui, alors au mieux. À ce jour, le week-end, la police municipale est fermée.
Elle est fermée. Donc,
et
à 22h, bon, rideau, quoi. Donc, 3-8, 7 jours sur 7. Donc, on imagine effectivement le nombre d'employés municipaux qu'il faut effectivement recruter.
Comment faire des policiers municipaux sur la ville?
C'est pas encore fini, parce que c'est le problème le plus gros de tous les temps, quand même. Hein. Les caméras de protection, pas surveillance, ça connote mal, quoi. Et du photovoltaïque partout, sur tous les toits, dans toutes les rues, toutes les places, tout le carrefour, des caméras, sur toutes les toits de Narbonne, des plaques de photovoltaïque, etc. Et puis alors le plus drôle quand même, parce que là ça m'a fait vraiment rigoler, quoi, hein, c'est la transformation des containers d'ordures ménagères, ceux qui sont utilisés pour le tri sélectif, les transformer en espèce de guichet bancaire, c'est-à-dire que quand tu iras ou quand j'irai moi, si par hypothèse j'étais élu maire, quoi, mettre une boîte en plastique dans le conteneur, cling, je reçois de l'argent.
Ah oui, oui, oui.
C'est un concept innovant, quoi. Hein. Ah, je n'ai jamais lu.
C'est la consigne, hein, mais pour le plastique.
Voilà.
Certainement au kilo.
C'est fou, quoi. Hein. Alors, je me suis dit, mais pourquoi s'est-il arrêté là, quand même, ce garçon, dans cette espèce de campagne où il exprime une espèce de délire paranoïde.
C'est innovant.
On a dû lui dire qu'il faut faire rêver les lecteurs. Il fait rêver. Là.
Non, mais il n'a pas fait rêver. En fait, moi, à sa place, j'aurais continué. J'aurais dit, mais voyons, on va créer un aéroport international de Narbonne en bâtissant une île artificielle au large de Narbonne Plage, par exemple.
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas? Pour faire venir des touristes, ça fait vraiment un pagaille. Comme on l'a fait au large de, je ne sais plus quelle ville du Japon, on a créé une île artificielle, on a fait un
aéroport. Au pied des éoliennes, ça serait sympathique.
Et puis pour finir, faire un Narbonne Plage, un port en eau profonde, en qu'à y être. Comme ça, on aurait une liaison intermodale entre l'aéroport et le port. Hein, pourquoi pas ensuite, une espèce de téléphérique. Bref, un truc complètement délirant. Alors cela dit quand même...
Revenons sur Terre.
Cela dit quand même, ce garçon n'est pas aussi fou, n'est pas aussi, dans l'absurdité qu'il le dit. Parce que lui-même ajoute à la fin de son interview, c'est vrai, les gens ne manqueront pas de dire que je suis un peu fou. Alors là, je dois dire quand même que dans cette interview, c'est la seule chose raisonnable, effectivement, que j'ai lue. Et que je peux affirmer que son autodiagnostic est très bon.
Et pour continuer, alors, et si Bertrand Malquier n'était plus candidat à la présidence du Grand Narbonne,
oui.
Peux-tu nous en dire plus?
Oui. Parce que tu sais que je l'ai écrit dans, mon blog, on l'a interrogé ici, et je l'ai interrogé précisément sur ce point. Bertrand Malquier a dit, à la presse, a dit ici même, et je l'ai rapporté dans mon billet en analysant le pourquoi de cette prise de position, qu'il était candidat à la présidence de l'AGLO et qu'il avait travaillé sur un programme pour justement l'AGLO, notamment en termes de gouvernance, les trois tiers, hein, un tiers pour la ville, un tiers pour le rural, un tiers pour le littoral, et puis sur un contenu, en ayant mis un petit peu tout loin.
On a évoqué le sujet devant exactement. Didier Mouly également,
d'ailleurs. Oui, sauf que déjà, quand on a comme Didier Mouly était là, déjà, dans la deuxième partie du débat en fait, que tu vas avoir d'ailleurs avec Nicolas Sainte-Cluc, quand tu l'as interrogé sur ce point, Jean-Claude, j'ai noté que Didier Mouly disait qu'il n'était pas forcément bon candidat, en fait, que c'était trop tôt pour se présenter une candidature, déjà. C'était trop tôt. Et que, bon, on verrait au dernier moment. Alors, je dis, tiens, il y a une fréquence, là, sur laquelle ils ne sont pas tout à fait sur la même, justement, la même fréquence. Malquier, oui. et Didier Mouly. Il y a un ton, différent, il y a un machin, etc. Et effectivement, Jean-Claude, je me disais, mais voyons voir, Michel, toi qui as quand même une certaine expérience de la relation avec les politiques au plus haut niveau, un ministre, un président du conseil départemental, un président de région, un maire, un président d'agglo, etc. Tu as quand même tiré une leçon de toute cette longue expérience, à savoir que le pouvoir ne se divisait pas.
Ça.
Le
oui.
pouvoir ne se partage pas.
Ça, oui.
Et je me disais, mais voyons voir, un schéma comme ça, un Malquier président de l'agglo et un vice-président Didier Mouly, ça ne va pas marcher. Imagine deux secondes, par exemple Jean-Claude, que le premier vice-président ou le deuxième vice-président de la ville de Narbonne, qui serait Didier Mouly, exige de l'agglo qu'on paye à la ville le passage des bus de l'agglo sur ses chaussées. Que pourrait dire Bertrand Malquier, dans ce genre de situation. Par exemple, c'est une hypothèse de travail, quoi.
Tu as mûrement réfléchi.
Non, mais il ne pourrait pas dire, c'est complètement absurde. Donc je suis à peu près certain.
Voilà ce qui t'amène à cette conclusion.
C'est ce qui m'amène à cette conclusion, mon cher Jean-Claude, c'est que Bertrand Malquier, d'ici peu, va certainement faire savoir qu'il n'est plus candidat à l'agglo. De sorte que.
Il sera un invité, je crois, en février. On lui posera la question quand il sera.
On lui posera la question à ce moment-là, mais je suis à peu près certain qu'il répondra avant.
Peut-être, oui.
Mais bon,
c'est
une hypothèse.
C'est une hypothèse.
Cela dit, bon, ça ouvre du coup l'espace, comme je rapportais lors d'une dernière chronique, il y a déjà du côté socialiste, il y a des candidats qui se sont déclarés. Bon, il y a M. Fabre, que tout le monde connaît, ici à Narbonne, je plaisante, qui est le maire de Bise.
Alain Fabre.
Puis il y a Magali Verne qui dit, attendez, moi je suis maire de Névian, je suis une femme, donc c'est place aux femmes, quoi, etc. Il y a monsieur Rocher qui, l'est-il encore, il est dans une position un peu compliquée quand même, parce qu'il a été quand même vice-président, etc.
Tu as une belle liste, alors.
Guillaume Meyras qui, lui, continue son petit travail, qui est centriste, qui se dit après tout dans ce climat-là, mais il y a une Malquier disparaissant, ça aère l'espace de travail, si je puis dire, l'espace de. Très secret, parce que personne n'en parle, personne n'en parle. Oui, le troisième homme qui fut celui de 2014 et qui ne dit rien, mais qui agit, qui pense, qui réfléchit, qui est Didier Codroniou. Donc, on est dans une situation aujourd'hui, où probablement la disparition du paysage, de cette compétition du Grand Narbonne de Bertrand Malquier ouvre un espace, en sachant que monsieur le maire de la Nouvelle, monsieur Martin, a lui dit clairement. Il me l'a dit même personnellement, je ne suis pas et je ne serai jamais candidat. Alors, tout cela posé, attendons effectivement que les choses se passent, puisque personne ne veut se déclarer aujourd'hui, et que les Narbonnais, quand ils vont élire leur conseil communautaire, ils ne sauront pas qui ils vont pouvoir élire comme président, Mais on va dire presque, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, et on ne sait pas quel est leur candidat au conseil communautaire. Voilà. C'est très démocratique comme comportement, ça, n'est-ce pas?
Et je trouve qu'effectivement, ça nuit
à la transparence et à la crédibilité.
Et à l'intérêt que les gens portent à l'agglomération.
Exactement.
Certainement. En tout cas, selon toutes ces hypothèses, voilà quelque chose qui va peut-être faire avancer la réflexion Ce sur quoi on marque une deuxième pause et nous retrouvons notre invité Nicolas Sainte-Cluque.